Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Entre 150 000 et 300 000 manifestants contre la loi travail aujourd'hui, la mobilisation ne faiblit pas. Manuel Valls, lui, refuse de céder à la rue malgré des voix dissonantes au sein de sa majorité. Dans ce journal, le reportage de Raphaël Ebenstein, l'analyse de Frédéric Seyss et le commentaire de notre invité, le député socialiste Jean-Marc Germain. Tous les quotidiens nationaux absents des kiosques aujourd'hui, tous sauf un, l'Humanité, qui avait accepté de publier une tribune du leader de la CGT Philippe Martinez. Le syndicat du livre l'a donc épargné. Les explications à suivre d'Abdellah El Idrissi. Difficile ce soir d'évoquer un quelconque affaiblissement de la mobilisation contre la loi travail. Les blocages des raffineries et des centrales nucléaires se poursuivent. 20% des stations-service françaises sont en situation de pénurie et 9 centrales sur 19 ont enregistré des baisses de production. Dans la rue, la 8e journée nationale d'action s'est traduite par des cortèges significatifs. 153 000 manifestants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur qui en avait compté 128 000 la semaine dernière. Curieusement, la CGT reconnaît une participation en baisse, 300 000 personnes aujourd'hui, 100 000 de moins qu'il y a 8 jours selon le syndicat. À Paris, ils étaient 18 000 pour la police, 100 000 pour la CGT et Force ouvrière. Et dans le cortège parisien, le patron de la CGT, Philippe Martinez, n'a pas hésité à déclarer que François Hollande n'avait plus la majorité pour imposer la loi travail. C'est un reportage de Raphaël Ebenstein.
Plusieurs raisons pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, d'avoir le sourire. D'abord, les dissensions apparentes au sein de la majorité autour de l'article 2 du projet de loi El Khomri. Ensuite, le rebond de la mobilisation. Et surtout, le soutien des manifestants à sa stratégie face au gouvernement, à l'image d'Anne-Monique, favorable à la généralisation des grèves.
Moi, je suis content de la gauchisation de la CGT. Je pense que c'est dû à la nouvelle, nouvelle donne politique actuellement. En plus, ils sont bien implantés. S'ils veulent continuer à être implantés par opposition à la CFDT qui est vendue au dernier carat, qui veulent montrer que même si c'est la droite qui passe, qui que ce soit qui passe, on continuera.
Aucune dissension avec la CGT, assure de son côté Marc, militant Force ouvrière.
Force ouvrière aussi une action en parallèle comme la CGT pour défendre les acquis des travailleurs et là dans l'urgence de toute façon, on sent que tous les syndicats vont faire corps. Il y a une division historique mais face à l'urgence et au péril. Je pense qu'on mettra ça de côté, en tout cas pour un bon moment encore.
Et les propos de Manuel Valls ou de certains ministres fustigeant la CGT semblent avoir plutôt galvanisé les troupes. Beaucoup se disent prêts à durer, s'il le faut, jusqu'à la rentrée.
Raphaël Ebenstein dans la manifestation parisienne. Cette journée d'action a donné lieu à de nouveaux incidents à Paris et en région. Au total, 77 personnes ont été interpellées, dont 36 dans la capitale. Incontestablement, le conflit autour de la loi travail tourne au bras de fer entre la CGT et le gouvernement. Manuel Valls multiplie les attaques contre le syndicat de Philippe Martinez. La CGT ne fait pas la loi dans le pays, avait dit hier à l'Assemblée le Premier ministre. Du coup, Frédéric Seyss, Philippe Martinez demande à être reçu par François Hollande, comme si le président était le seul interlocuteur susceptible de trouver une sortie de crise.
Oui, cela symbolise bien le mano à mano qui s'est installé, presque dans l'intérêt de chaque camp d'ailleurs. La CGT veut montrer qu'elle est en pointe sur la contestation. L'exécutif veut montrer que cette contestation n'est que le fait que d'un seul syndicat radicalisé, selon les termes de l'entourage présidentiel. La demande de Philippe Martinez d'être reçu à l'Élysée rencontre d'ailleurs une fin de non-recevoir. Ce sont le Premier ministre et la ministre du Travail qui sont responsables du dialogue, si la CGT veut le dialogue, ajoute-t-on à l'Élysée. Alors dans ce rapport de force qui peut durer, n'oublions pas que le calendrier parlementaire ne permet pas d'adopter le texte avant fin juin, début juillet, le gouvernement en est réduit à regarder les rares signes positifs pour lui. D'abord, il y avait peu de grévistes. Aujourd'hui, il n'y a pas de grève dans le privé, tente de se rassurer l'entourage du Premier ministre. Ensuite, Matignon veut croire qu'une brèche s'est installée entre la CGT et Force ouvrière, le premier demandant le retrait pur et simple du texte, le second étant considéré comme plus ouvert à la discussion. Il faut malgré tout observer que la journée a été marquée par des déclarations contradictoires au sein du gouvernement. Michel Sapin s'est prononcé pour un réaménagement de l'article 2 de la loi, celui qui est le plus rejeté par les opposants à cette loi travail. Quelques minutes plus tard, Manuel Valls a recadré son ministre en déclarant précisément l'inverse. Jusqu'à présent, le gouvernement avait reculé, déjà, sans le dire, mais en relatif bon ordre, notamment sous la bannière du compromis, mot employé à de nombreuses reprises lors de la version 2 du texte, c'était en mars dernier. Cette fois-ci, c'est une cacophonie qui a donc servi d'argument au syndicat.
Frédéric Seyss, merci. Invité de ce journal, le député député socialiste Jean-Marc Germain, proche de Martine Aubry. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Marc Germain, Michel Sapin évoquait ce matin une réécriture de l'article 2, l'article sur l'inversion de la hiérarchie des normes, la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Est-ce que c'est une piste intéressante pour vous ?
Oui, moi j'ai demandé depuis longtemps à ce qu'il y ait cette réécriture, et d'ailleurs avec un certain nombre de parlementaires, on l'avait proposé dans le débat à l'Assemblée nationale, débat qui malheureusement a été interrompu. Parce que je crois qu'il faut sortir de ces oppositions, certains disant on ne doit pas y toucher, ce qui est un peu paradoxal parce qu'on est en plein débat parlementaire, et d'autres voulant le retrait complet. Je crois que cet article, en tout cas moi je le critique parce qu'il pose des difficultés à juste titre, il risque de créer du dumping social. Les entreprises vont baisser, par exemple, la rémunération des heures supplémentaires, et d'autres seront obligés de suivre sans que personne n'y gagne au bout du bout. Donc, je crois qu'il faut se mettre autour d'une table de toute urgence.
Mais le problème, c'est que Manuel Valls ne veut pas en entendre parler. Et d'ailleurs, Myriam El Khomri l'a répété ce soir, il n'est pas question de modifier cet article 2.
Oui, mais vous vous rendez compte, on n'a pas pu débattre de ce texte à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement nous dit on ne peut pas discuter alors qu'on devrait chercher à entendre les arguments des uns et des autres, se mettre autour d'une table. Vous savez, la démocratie, quand on a des désaccords, de les trancher par le débat et puis par le vote au bout du bout. Donc moi j'appelle vraiment à ce que on se retrouve tous autour d'une table avec les parlementaires d'un côté, les organisations syndicales de l'autre, et qu'on aille vers des solutions. À ce stade, il y a deux solutions, de mon point de vue. La première, c'est de retirer cet article 2 et de demander aux partenaires sociaux, patronat, syndicat, de négocier, parce que cette négociation n'a pas eu lieu, et on voit de toute évidence qu'elle est nécessaire. Après, ils seront d'accord ou pas au bout du bout, mais je crois que ce sera un temps utile. Et puis, que les parlementaires se retrouvent et discutent des amendements. Le Premier ministre a fait des propositions. Moi, j'en ai fait avec un certain nombre de parlementaires. Voilà, mais ce qui n'est pas acceptable en ce moment, c'est qu'il n'y ait pas de discussion, que les choses soient fermées.
Mais il faut discuter avec qui, Jean-Marc Germain ? Avec Force ouvrière en priorité ou également avec la CGT ?
Il faut discuter avec tout le monde, y compris avec la CFDT
et la CGT. Et
trouver des solutions. Vous savez, il y a ceux qui demandent plus de négociations dans les entreprises. Et il y a ceux qui disent pourquoi pas est-ce qu'il y ait des négociations dans les entreprises, mais il faut que les accords qui soient signés soient globalement plus favorables pour les salariés que les règles qui sont définies dans les branches ou dans la loi. Donc on doit bien pouvoir trouver des solutions pour ça. Et puis je crois qu'il y aurait une annonce qui pourrait au fond remettre un peu de la sérénité dans le débat, c'est que le Premier ministre et le gouvernement s'engagent demain, après-demain, en tout cas très vite, à ne pas utiliser le 49-3. Et disent, in fine, c'est la démocratie qui va trancher. Il y aura des débats au Parlement, c'est les parlementaires qui vont statuer sur ces différents débats. Je crois que ça permettra à tout le monde de se dire qu'il va y avoir des discussions, des négociations sérieuses, sincères, pour trouver un compromis. Je crois que le président de la République a beaucoup insisté ces derniers temps sur le compromis. Et la façon de trouver un compromis, c'est le débat et puis le vote au Parlement.
Jean-Marc Germain, à vos yeux, Manuel Valls, c'est trop rigide dans ce bras de fer avec les syndicats autour de la loi travail ?
Oui, je trouve, parce que je vois aucune raison de dire je ne changerai pas tel ou tel article. Je pense que quand on est chef du gouvernement, on doit essayer de construire des majorités au Parlement et d'entraîner le pays. Et d'entraîner le pays, ça veut dire d'entraîner notamment en l'occurrence les formations syndicales et d'essayer d'en entraîner le plus possible. De respecter aussi les positions de la CGT, vous savez. C'est un syndicat qui souhaite qu'il y ait des évolutions, qui a une vision de la réforme, qui peuvent avoir des divergences avec celles que porte le gouvernement, mais c'est des femmes et des hommes qui perdent des salaires quand ils font grève, qui se mobilisent pour les autres, souvent au profit de leur carrière. Donc je crois qu'il faut profondément respecter ce qu'ils nous disent, les écouter, essayer de prendre en compte. Moi, je trouve que les critiques qui sont faites sur cet article 2 sont justes, elles méritent d'être entendues, et il y a vraiment des solutions pour y parvenir. Si on disait oui à la négociation d'entreprise, mais encadré par ce qu'on appelle le principe de faveur, des accords plus favorables, et par des négociations de branches préalables qui diraient voilà ce que les branches garde comme négociation et voilà ce qu'elle confie aux entreprises parce que ça doit être négocié au plus près du terrain, je crois qu'il y a de quoi sortir. Le Force ouvrière l'a clairement dit, vous l'avez rappelé dans votre reportage, mais je crois aussi que ça apaiserait beaucoup de critiques qui sont formulées à juste titre par la CGT.
Merci beaucoup Jean-Marc Germain, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Dans sa volonté farouche de faire reculer le gouvernement, la CGT a réussi l'exploit de se mettre à dos presque toute la presse quotidienne nationale. Le syndicat exigeait des journaux parisiens qu'il publie une tribune de son leader Philippe Martinez. Tous sont refusés, ils étaient absents des kiosques ce matin, tous sauf un journal, L'Humanité, Abdelhakel Idrissi.
En bas de la pleine page, le journal L'Humanité y écrit que cette tribune a été publiée bien volontiers. Pour les autres journaux, c'est du chantage et c'est inacceptable. La décision du syndicat du livre a été prise vendredi en Assemblée Générale. Le SPQN, le syndicat de la presse quotidienne nationale, a été sollicité dans la foulée. Mais après en avoir débattu entre patrons de rédaction, il a été décidé de refuser. Et le blocage de l'apparition des journaux s'apparente à un déni de démocratie, selon Denis Bouchèze, président du SPQN.
C'est même attentatoire à la liberté d'expression à partir du moment où on dénie la fonction même de la presse, qui est donc sa capacité à traiter l'information, et qu'on essaie de la dévoyer vers une fonction de communication, et qu'à partir du moment où elle refuse d'une manière générale cette fonction de communication, on la bloque. Oui, effectivement, c'est littéralement attentatoire à la liberté d'expression et à la capacité, encore une fois, à permettre à la presse d'effectuer sa mission principale, qui est juste d'informer les gens.
Du côté du syndicat du livre, on ne voit pas où est le problème. Dans un communiqué diffusé hier, on lit que la publication de la tribune de Philippe Martinez avait pour but, je cite, « d'éclairer les 18 millions de lecteurs de la presse écrite sur les réalités du mouvement social ». Denis Lourdez, secrétaire général du syndicat CGT du livre.
Il ne s'agit ni d'une exigence, ni d'un dictat. On a, en fin de semaine dernière, proposé à tous les quotidiens, et nationaux, et régionaux, et départementaux, de donner une expression à Philippe Martinez pour qu'il exprime les positions de la CGT. En fait, ceux qui sont pris en otage, on va vous le dire, c'est pas le SPQM. C'est nous qui sommes pris en otage par un gouvernement qui veut appliquer une loi et qui passe antidémocratiquement avec l'article 49.3.
Didier Lourdez, qui était l'invité de nos confrères ce matin de France Inter. En attendant, au niveau local, il n'y a pas eu de blocage des journaux régionaux et on trouve la tribune dans Sud-Ouest, Midi Libre ou encore Paris-Normandie. Mais le syndicat de la presse quotidienne régionale assure qu'il n'y a pas eu de chantage. Effectivement, d'autres titres ne publient pas le communiqué et sont pourtant disponibles.
Abdelhakel Idrissi, merci. C'est depuis le Japon que François Hollande suit le conflit sur la loi travail. Le chef de l'État participe au sommet du G7 avec les dirigeants des 6 autres puissances occidentales. L'ordre du jour est chargé. La crise migratoire, le terrorisme ou le réchauffement climatique. Il y a aussi et surtout peut-être les inquiétudes liées à la croissance économique. Dominique André est notre envoyé spécial à Iseshima au Japon.
La faiblesse de l'économie mondiale a été le gros morceau de cette première journée de travail du G7. La méthode Coué n'a pas de frontières, it's doing better, ça va mieux, a lancé Barack Obama. La formule aura eu au moins le mérite de faire sourire François Hollande, occupé à gérer à distance la crise sociale en France, en s'informant régulièrement par téléphone de la situation. J'ai laissé mes droits d'auteur sur la formule, tout à fait libre, a plaisanté le président français, qui l'a utilisé régulièrement ces dernières semaines. La croissance aux États-Unis qui a repris vivement, ainsi qu'une reprise en Europe, ont été soulignés aujourd'hui. Le club des 7 a passé en revue des éléments préoccupants, a confié le chef de l'État. Les difficultés du Brésil, le ralentissement de la croissance en Chine, la situation en Russie et la volatilité du prix du pétrole. Ce soir, le dîner a été consacré à la politique étrangère, Syrie, terrorisme, migration et afflux de réfugiés, une crise qui préoccupe l'Europe, qui est en première ligne. Dans l'après-midi, François Hollande avait plaidé pour l'organisation d'une conférence internationale à Abu Dhabi en fin d'année. Les 7 veulent protéger les œuvres d'art menacées par le terrorisme après les destructions des trésors de Tombouctou, Mossoul et des temples de Palmyre.
Dominique André. Donald Trump a franchi un cap symbolique aujourd'hui dans la course à la Maison Blanche. Le milliardaire affirme avoir le nombre de délégués requis, 1238 exactement, pour obtenir l'investiture républicaine. On termine avec la météo. Demain, temps variable en début de journée sur les trois quarts du pays. Une nouvelle vague orageuse arrivera par l'Atlantique en fin de journée. Le quart sud-est devrait bénéficier d'un temps ensoleillé. Les températures maximales 16 à 25 degrés sur la moitié nord, 20 à 29 au sud.